Chapitre 36e. Comment le grand empereur Charlemagne embrassa la belle Corisande, et comment le perfide Ganelon, comte de Mayence, fut reçu à la cour du roi Marsile. Le vieux Charlemagne, à la barbe blanche, était assis dans sa tente à quelques lieues de Valence, et allait donner le signal du départ, lorsque les éclaireurs annoncèrent l'arrivée de Roland et d'Olivier. Aussitôt les trompettes sonnèrent leurs plus éclatantes fanfares, et toute l'armée se précipita au-devant du héros. Le grand empereur lui-même sortit de sa tente tenant à la main son sceptre d'or et s'avança d'un air majestueux vers le comte d'Angers. Derrière lui marchait le duc Naïmes de Bavière, si renommé dans les conseils, Dudon, le grand amiral de l'Empire, et les autres pairs de France. À la vue de Charlemagne, Roland mit pied à terre et, confiant bride d'or aux soins d'un page, il alla baiser la main de l'empereur. Mais celui-ci le serra dans ses bras et le baisa tendrement. « Eh bien, beau neveu, rebelle dénaturé, te voilà donc revenu. Vraiment, tu nous manquais. »« Seigneur, répliqua Roland, j'avais eu le malheur de vous déplaire, et pour m'en consoler, j'ai voulu faire la conquête d'un royaume. Comment s'appelle ton royaume ? C'est le Portugal. Le bon Turpin est venu me donner un coup de main, et Olivier prenait sa part de l'affaire lorsque Satan, qui est l'ami des Sarrasins, m'a rappelé devant Grenade. Oui, oui, j'ai entendu parler de cette histoire. Tu as délivré quelques princesses, je ne sais où. Seigneur, dit Roland, voici la dame de mes pensées. Jugez, si pour la sauver, je devais quitter le Portugal et toutes les Espagnes. À ces mots, sur un signe du chevalier, Corisande leva son voile et découvrit aux yeux éblouis de Charlemagne la plus merveilleuse beauté qu'il eût vue à sa cour. Le cœur du vieil empereur bondit de joie dans sa poitrine, et il reçut lui-même dans ses bras la belle Corisande qui se hâtait de descendre de son palfroi. L'aimable princesse de Grenade lui fit son compliment avec tant de grâce et d'esprit que le bon Charlemagne, sans en demander davantage, proclama qu'elle était la dame la plus charmante et la plus accomplie dont les poètes eussent jamais parlé. Pendant ces compliments réciproques, les principaux chefs de l'armée s'étaient réunis autour de Roland et lui faisait raconter ses aventures. Comme le bruit de son prochain mariage avec Corisande s'était déjà répandu, tout le monde le comblait de félicitations. Seul, le perfide Ganelon, comte de Mayence, se tenait à l'écart. Tout le monde sait que ce traître, animé d'une haine implacable contre tous les neveux de Charlemagne, cherchait toujours à les perdre dans l'esprit de leur oncle. C'est lui qui avait poussé à la révolte le fier Renaud de Montauban et ses frères, et qui avait demandé le supplice de Roland lorsque celui-ci eut l'audace de résister à Charlemagne et coupa en deux son sceptre d'or d'un revers de Durandal. Sa lâcheté, qu'il exposait aux moqueries de toute l'armée, lui faisait détester et craindre le comte d'Angers, mais sa bassesse et ses flatteries lui conservaient la faveur de Charlemagne, lequel, bien qu'étant le modèle des princes passés, présents et à venir, était d'ailleurs le plus colérique des empereurs de toute la terre habitable. « Eh bien, dit Roland, ô Mayençais, tu n'es pas content de mon bonheur, Ganelon ?»« De la coupe aux lèvres, il y a loin, » répondit le Mayençais. Au même instant, on annonça l'arrivée d'un messager de Marsile. C'était l'émir d'Alcala de Hénarès, l'un des plus sages chevaliers et des plus renommés parmi les Sarrasins. « Seigneur, dit l'émir à Charlemagne, le roi Marsile m'envoie te demander la paix. »«
Il est bien tard, » répondit le vieil empereur.
« Il n'est jamais trop tard pour être sage, » répliqua l'émir. « Marsile a 400 000 chevaliers des plus braves de l'univers, 600 000 hommes de pied et une réserve de plus de 1 200 000 hommes en état de porter les armes. Autour de lui sont le roi de Nubie, qui amène avec lui 100 000 nègres vaillants et hardis. Le prince de Mazandéran, qui a sous ses ordres les Caspiens, race habile à lancer des flèches comme les anciens Parthes, le sultan de Kasgar, qui porte dans ses armes une panthère et que suivent 200 000 tartares, le Soudan de Nigrissi, qui monte un éléphant plus haut qu'une tour, et le duc des îles Fortunées qu'entoure l'océan et qui vient des extrémités du monde connu.
« S'il a tant de guerriers à ses ordres, dit Charlemagne, pourquoi demande-t-il la paix ?
Pour éviter l'effusion du sang. Il offre de te payer 1 000 000 d'écus d'or tous les ans, à condition que tu sortiras sur le champ de toutes les Espagnes. En attendant, il demande une trêve de 10 jours pour les négociations. «
Sois le bienvenu dans mon camp, dit le vieil empereur. je vais donner ordre qu'on te reçoive comme un hôte et comme un ami. Demain, tu partiras avec un ambassadeur qui portera ma réponse au roi Marsile. » Qui vais-je envoyer ? Ajouta Charlemagne. « Est-ce toi, mon fidèle Naïmes ?»«
Seigneur, » dit le duc de Bavière, « ma vie est à vous, mais je crains les fourberies des infidèles. »
« Et toi, bon archevêque ?» demanda l'empereur à Turpin.
« Seigneur, » répondit l'archevêque, « je suis un mauvais ambassadeur. Je ne pourrai jamais voir tant de Sarrasins ensemble sans désirer de leur briser les os avec ma crosse. Ne comptez pas sur moi pour conclure un bon traité de paix. »
« Ce sera donc toi, Roland ?»«
Seigneur, » dit le comte d'Angers, « excusez-moi, j'ai tant de choses à dire à Corisande. »
« Et toi, Olivier ?»
« Moi, seigneur, vous n'y pensez pas. Ne suis-je pas l'ombre de Roland? S'il part, je pars. S'il reste, je reste. »
« Seigneur, » reprit Roland, « s'il vous faut un homme pacifique, prenez plutôt ce pâle justiciaire qui tremble les jours de bataille. Par lui, vous êtes bien sûr d'avoir une paix éternelle. »
À ces mots, Ganelon, que Roland désigna du doigt, pâlit affreusement et voulut se défendre de cet honneur. Mais Charlemagne lui ordonna si impérieusement de se mettre en route dès le lendemain qu'il fut forcé de se charger du message.
« Mais si ces infidèles, qui ne connaissent aucune loi, me font couper la tête ?» demanda-t-il avec inquiétude.
« Rassure-toi, » dit Roland, « elle n'est pas assez ronde pour qu'on s'en serve au jeu de qui. »
« Dis-leur, » ajouta Charlemagne, « que 100 000 têtes de Sarrasins me répondent de la tienne. »
Le lendemain, le perfide Maillancet, plein de fureur contre Roland, partit avec l'émir d'Alcala de Hénarès et tous deux, faisant diligence, arrivèrent en 2 jours à Saragosse. En entrant dans la salle du trône, où Marsile était assis avec les principaux seigneurs de sa cour, l'émir d'Alcala fut très surpris de voir à droite et à la gauche du roi 2 chevaliers qu'il ne connaissait pas. Les 2 nouveaux venus étaient Don Guéferos, prince de l'Estramadure et des Algarves, et dont Bernard de Carpio, surnommé le Matamoro. Le comte Ganelon s'avança en tremblant, se prosterna devant le roi Marsile, au grand étonnement des assistants qui se souvenaient encore de la fière contenance de Roland, et dit « Seigneur roi, et vous tous, seigneur chevalier, renommés dans tout l'univers par votre sagesse et par votre courage, je viens vous annoncer les conditions que vous offre l'empereur Charlemagne. Premièrement, vous payerez chaque année un tribut de 10 millions d'écus d'or. Secondement, vous reconnaîtrez la suzeraineté de l'empereur Charlemagne et vous le suivrez dans toutes ses guerres. Troisièmement, vous recevrez tous le baptême. Quatrièmement, vous laisserez entre ses mains pendant 5 ans, comme gage de la paix, Valence et Barcelone. » À ces mots, un immense murmure s'éleva du milieu de l'assemblée. Guéferos tira son cimeterre.
« Grand roi, » dit-il à Marsile, « permets-moi de couper les oreilles à l'ambassadeur de Charlemagne. Par là, cet insolent empereur saura quel cas nous faisons de lui et de son armée. »
« Remets ton cimeterre au fourreau, généreux Guéferos, » dit Marsile. « Je sais ce qu'exige le soin de mon honneur et de ma couronne. »
Guéferos obéit en grondant comme un chien à qui l'on arrache un os. Mais le Maillancet n'en fut pas plus rassuré.
« Seigneur roi, » dit-il, « j'ai refusé longtemps de porter des propositions aussi peu dignes de toi et de ton courage, mais la volonté de l'empereur m'y a contraint. Au reste, Charlemagne lui-même veut la paix ainsi que toute l'armée. Roland seul le pousse à continuer la guerre et veut conquérir un trône pour la belle Corisande. »
En entendant ces mots, Marsile devina la haine du perfide Maillancet contre le comte d'Angers et résolut d'en profiter. Sous prétexte de discuter plus librement avec Ganelon les conditions du traité, il le fit appeler en particulier et lui dit
« Comte, tu es Roland autant que moi, ne nie pas, je l'ai vu. »
« Seigneur roi, » répondit Ganelon, « rien ne peut échapper à votre perspicacité. Roland me maltraite et m'humilie en toute occasion. C'est le mortel le plus féroce et le plus orgueilleux que je connaisse. »
« Bien, » continua Marsile, « je l'avais deviné.
Tu le hais parce qu'il t'insulte, et moi je le hais parce que je le crains et parce qu'il a tué mon fils Ferragus, l'espoir de ma vieillesse. Unissons nos haines et tâchons de tuer Roland. »
« Seigneur roi, » dit le Maillancet troublé, « c'est une trahison que tu me proposes? Toute l'armée de Charlemagne se fera tuer pour le défendre. »
« Comte, » dit Marsile, «
Te venger et me venger d'un ennemi commun, est-ce trahir? J'ai deux comtés en France, la Cerdagne et le Roussillon, et un troisième comté en Espagne, celui de Barcelone, dont je ne sais que faire. Trois comtés pour la tête de Roland, est-ce trop peu?
Cette offre vainquit les derniers scrupules du Maillancais.
Mais, dit-il, c'est une entreprise bien difficile. L'ours fera tête aux chasseurs.
C'est notre affaire, répliqua Marsile.
Retourne au camp des chrétiens. Annonce à Charlemagne que toutes ses conditions sont acceptées, même le baptême. Amène-lui 20 mulets chargés d'or. C'est la rançon de l'Espagne. Persuade-lui de confier Roland à l'arrière-garde. Je me charge du reste.
Seigneur roi, dit Ganelon, je t'engage ma parole. Toi, pense à la tienne.
En même temps, il partit chargé de présents et résolu à tout tenter pour la perte de son ennemi.
Charlemagne reçut avec beaucoup de joie la réponse du roi Marsile et se hâta de ratifier le traité.
« Eh bien, dit-il à l'archevêque Turpin, nous avons fait de bonnes besognes chez ces mécréants. Les voilà baptisés comme nous. »
« Grand empereur, répondit le bon archevêque, je n'ai pas grande confiance dans les promesses de Marsile.
Peut-être ferions-nous bien d'attendre quelque temps avant de repasser les Pyrénées ?»«
Incrédule, dit Charlemagne en riant. Et toi, Roland, qu'en penses-tu ? » ?»«
Je pense, dit Roland, qu'elle est bien belle et que je l'adorerai toute ma vie. »
« Qui, Marsile ?»«
Eh non, Corisande. »«
Au diable l'amoureux, dit le bon empereur avec gaieté. Je lui parle Marsile et il me répond Corisande.
Voyons, quel jour sera baptisée cette aimable princesse ?»«
Demain, dit l'archevêque, car je n'ai plus rien à lui enseigner. Elle connaît tous les mystères de notre sainte foi. »
« Eh bien, dit Charlemagne, à demain le baptême. C'est moi qui serai le parrain. Dans 15 jours, nous ferons le mariage à Bordeaux. »